Le débat africain. Alain Foucault.
L'Inde, la Turquie, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie, Singapour et maintenant le Japon. Pourquoi toutes ces grandes puissances s'intéressent-elles tant depuis quelques années à l'Afrique? Qu'est-ce qui explique cette impressionnante offensive rythmée par de multiples sommets où sont invités en grande pompe les dirigeants continentaux? Puisque la mariée semble désormais plus belle et qu'elle est courtisée de toutes parts, est-elle prête cette fois-ci pour répondre à toutes ces sollicitations? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'offensive diplomatique, je voulais dire économique, sur l'Afrique. Avec plusieurs invités au téléphone et sur ce plateau, plusieurs acteurs de cette scène internationale. D'abord, Alain-Claude Bilibizier, le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Bonjour, monsieur Bilibizier.
Bonjour.
Second invité de ce plateau, monsieur Kabiné Camara, ancien premier ministre de Guinée, auteur de plusieurs ouvrages. Il est en direct de Conakry. Bonjour, monsieur Kabiné Camara.
Bonjour.
Notre troisième invité, lui, en direct de Dakar au Sénégal. Cheikh Tidiane Gadio est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Bonjour, Cheikh Tidiane Gadio.
Bonjour, Alain.
Notre quatrième invitée est une consoeur. Elle est dans ce studio. Emmanuelle Pontier, la directrice adjointe de la rédaction d'Afrique Magazine. Bonjour, Emmanuelle.
Bonjour.
Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas revu ici.
Oui,
vous revenez avec une nouvelle formule d'Afrique Magazine qui s'appelle Afrique Magazine à nouveau comme autrefois. On est sorti voilà. De AM. Qu'est-ce qui explique ce changement de nom?
À un moment, vous savez, chaque période nécessite des changements, des évolutions. À un moment, on s'était dit que AM, c'était peut-être plus moderne, plus branché, plus international. C'est une façon de montrer que l'Afrique faisait partie du monde, etc. Et puis maintenant, on a décidé de revenir à Afrique Magazine parce que je pense que c'est bien de remettre l'identité avec de l'Afrique avec le mot Afrique. Donc Afrique Magazine au long.
Et Magazine.
Voilà. Alors, c'est pas qu'un changement de logo parce que derrière, il y a un changement de formule avec une nouvelle maquette. On a voulu moderniser les typographies.
On plus a aéré, mis, c'est très aéré.
Plus aéré
avec beaucoup de photos.
Ouais, beaucoup de photos et puis on a renforcé le cahier business, qui est un petit peu les choses aussi qui intéressent pas mal les Africains en ce moment.
Puisqu'on veut parler plus d'économie maintenant.
D'économie, on va essayer d'être un petit peu plus proche, j'allais dire, du continent en faisant beaucoup plus de reportages, de choses, de témoignages, de choses un petit peu plus.
Même périodicité. Voilà.
Même périodicité, ça reste mensuel.
Ça
même
reste
prix,
mensuel.
Même périodicité.
C'est pas plus cher, hein. Non, vous n'allez pas nous vendre ça plus cher maintenant.
Voilà.
Alors, on va parler du sujet qui passionne tout le monde en ce moment. On voit venir la Russie, on voit venir la Chine était déjà là, l'Inde. Et là, Alain-Claude Bilibizier, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, vous arrivez du Japon, justement, pour le TICAD, il y a quelques jours seulement. Comment expliquer cette nouvelle offensive des grandes puissances sur le continent africain? On les avait vus partir pendant une certaine période, on parlait d'afro-pessimisme, tout le monde tournait le dos à l'Afrique, l'Afrique était mal partie. D'un coup, on a tout le monde qui s'intéresse à l'Afrique, qui veut investir en Afrique, qui invite les chefs d'État et les dirigeants africains dans les différents pays. Comment l'expliquer, Alain-Claude, d'après vous?
Bah, écoutez, il me semble que l'afro-pessimisme n'est plus de mode. L'Afrique s'est organisée, elle s'est réorganisée, elle a réussi à mobiliser les élites et à se donner des trajectoires qui permettent aujourd'hui aux autres parties du monde de regarder l'Afrique d'un œil nouveau. Et ce n'est pas en réalité le fait uniquement des Africains, c'est aussi la capacité que le monde a eu à se transformer ces dernières années avec Internet, avec l'accélération du temps, des télécommunications. Et donc cette capacité à réduire l'espace et le temps fait qu'aujourd'hui, l'Afrique trouve toute sa place et que les principales économies s'intéressent à l'Afrique. Ce n'est pas uniquement pour les matières premières, c'est aussi la consommation avec une jeunesse qui a évolué et qui est une jeunesse mondialisée. C'est aussi la capacité de nos dirigeants à donner des trajectoires nouvelles, notamment sur le plan économique, avec des entreprises africaines de renom et qui sont présentes à tous ces différents forums.
Alors on va en parler justement de la capacité des Africains à, on va dire, à développer leur pays et à profiter de cet intérêt-là dans la seconde partie de ce magazine. Mais j'ai envie qu'on dresse un peu l'état des lieux. Est-ce que ce n'est pas simplement parce que ces grandes puissances-là ont besoin de matières premières, puisque pour l'instant, lorsque l'on voit ce qui les intéresse, ce qui est exporté, c'est essentiellement des matières premières, non, chez Tidiane Gadio?
En fait, je crois qu'il faudrait gérer peut-être un changement de paradigme hein, dans la relation avec l'Afrique. Il y a une sorte de ruée vers l'or, vers l'ouest, un peu dans le style de ce qui s'est passé aux États-Unis. À partir d'un certain moment dans l'histoire, il y a une ruée vers l'Afrique qui est absolument évidente. Il y a un télescopage de toutes les puissances grandes puissances des pays, ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, la Chine, l'Inde, etc. Maintenant, il se trouve que les puissances moyennes aussi, la Turquie, la Russie, tout le monde aspire effectivement à, disons ce que j'appelle moi, prendre sa part d'Afrique, parce qu'il leur semble que l'Afrique quelque part est à prendre. Un peu ça, c'est l'aspect critique dans mon raisonnement. Je me dis que si les Africains s'étaient pris en charge, comme ils devaient le faire, ils avaient consolidé leur stratégie d'unité et d'intégration. Les Africains seraient parmi ce qu'on appelle les World Global Players, c'est-à-dire les acteurs mondiaux qui ont des aspirations. Voilà. Mais en réalité, nous sommes toujours dans le pôle qui reçoit, et tout le monde pense qu'il a droit à sa part d'Afrique, y compris le terrorisme international. Peut-être qu'on aura la chance
d'évoquer. On va en parler.
Voilà. Mais en gros, le changement, le shift dans le paradigme, c'est qu'avant, quand on pense Afrique, on pense à un vaste territoire de 30 millions de kilomètres carrés. On pense à toutes les ressources naturelles. Le président Chirac, au début des années 2000, disait que l'Afrique représente un tiers des ressources naturelles du monde prouvées. Certains disaient que c'était même peut-être 40%. Mais aujourd'hui, le shift, c'est que la Chine, le Japon, la Corée, la Turquie, la Russie, et même des puissances moyennes africaines comme le Maroc, on fait l'analyse que l'Afrique va, dans 30 ans à peu près, avoir 2,4 milliards d'habitants. Et 1 milliard d'internautes, plus de 2 milliards de consommateurs. Rien que pour cela, l'Afrique devient
attrayante.
Terriblement. Moi, je me désole maintenant que les Africains ne soient pas les premiers.
On va en parler justement, c'est-à-dire, on va en parler dans la seconde partie, c'est-à-dire comment tirer parti de cet intérêt des grandes puissances pour l'Afrique, comment on gère ça cette fois-ci. Mais dans cet état des lieux, à l'instant, le ministre Alain-Claude Billy-Binzier parlait de la jeunesse, de l'intérêt de cette jeunesse, de cette jeunesse-là qui voit le monde différemment. Est-ce que ça fait partie de ce qui intéresse ces grandes puissances-là? Est-ce qu'on ne voit pas plutôt un marché de consommation, Monsieur Kabiné Camara?
Je voudrais m'inscrire dans la complémentarité de mes deux prédécesseurs en disant ceci. Il faut reconnaître aujourd'hui que tout ceci a été déclenché par le réveil de la Chine. Tant que la Chine ne s'est pas réveillée avec son formidable besoin de se développer
et de matières premières.
Les matières premières, donc l'Afrique était en seconde zone. Donc les besoins chinois, c'est important de reconnaître historiquement, ont fait que tout ce qui était dormant en Afrique, en termes de gisements, de ces choses-là, a été réveillé. Et donc, il y a eu beaucoup de revenus en Afrique. La croissance africaine a été multipliée, et du coup, les revenus africains ont été multipliés, et donc l'Afrique a une capacité donc, d'acheter, de consommer, plus maintenant sa population. Si la Chine était restée endormie, je vous assure que la situation aurait continué. Donc c'est très important de savoir d'où est parti ce qu'on appelle le trigger en américain pour que nous soyons obligés dans cette situation qui fait que nous sommes convoités. Mais nous sommes convoités du fait de ceci, mais également du fait qu'il y a un certain besoin entre les pays qui font qu'il y a des barrières entre elles et chacun des pays essaie de voir chez l'autre ce qu'il ne peut pas trouver et s'il peut le trouver facilement en Afrique, il vient là.
Dans le marché africain intéresse, la consommation africaine intéresse, Emmanuel Pontier.
Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis assez frappé par l'évolution entre hier et aujourd'hui, qui a été finalement assez rapide. À l'époque, on multipliait les sommets France-Afrique, qui d'ailleurs assez tardivement, c'est devenu Afrique-France. Je me suis dit, bon, c'est quand même mieux. Et maintenant, il y a une espèce de multiplicité complète, totale, d'interlocuteurs, avec des partenariats totalement affranchis d'un passé colonial, je veux dire.
On a des Singapouriens sur le continent.
Absolument. Donc, il y a des Russes. Alors après, moi, je trouve ça très réjouissant parce que ça donne à l'Afrique une palette de choix assez énorme. Évidemment, pour compléter aussi ce qu'ont dit mes prédécesseurs dans cette émission, qui ont parlé avant moi, bien entendu que c'est un rapport, je trouve ça très intelligent de le reconnaître, avec le réveil de la Chine, qui a boosté, qui a mis « put the emphasis on », comme on dit en anglais, sur l'Afrique, et tout le monde s'est engouffré peu à peu derrière. Alors, il y a une palette de choix, etc. Alors après, il y a des bémols aussi, parce qu'évidemment, on en parlera peut-être après, à la fois, je pense que cet engouement pour l'Afrique signifie aussi que l'Afrique a évolué, qu'elle représente un grand marché.
Est-ce qu'elle vient vraiment de l'évolution? Parce qu'on a le sentiment, quand on regarde un peu les chiffres des exportations, que c'est surtout aller chercher des matières premières pour l'instant.
Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Mmh. Il y a le sujet des investissements. Mmh. Et ensuite, l'importation des matières premières. Mmh. Moi, je fais partie des gens qui pensent que toutes ces grandes puissances moyennes, petites, émergentes, anciennes, qui travaillent avec l'Afrique aujourd'hui, enfin, dopent très peu
la transformation
locale, etc. Ça, c'est évident. Par contre, ils investissent dans des domaines nouveaux, qui ont attrait aux nouveaux marchés, qui ont attrait à une démographie galopante, qui ont attrait à cette jeunesse aussi qui s'ouvre complètement au monde et qui est immense, en Afrique immense. Mmh. Donc, on développe les nouvelles technologies, on développe des formes, si vous voulez, de communication, de télécommunications tout à fait modernes et rentables des deux côtés, si je puis dire. Mmh. Par contre, au niveau des importations, enfin des exportations, si je puis dire, de l'Afrique, c'est clair que ça, les choses malheureusement n'évoluent pas beaucoup de ce point de vue-là.
Alain Klobili-Binzé, vous qui êtes en charge de la diplomatie gabonaise, certains disent oui, vous allez à la table de ceux-là qui vous invitent, mais en retour, il n'y a que de la matière première qui s'en va, mais vous ne pensez pas à l'avenir. Est-ce qu'on est mieux équipés que par le passé, que avant la colonisation, pour répondre à cet intérêt, pour répondre à cette offensive?
Vous savez, M. Foucault, 1885, l'Occident d'Afrique s'est fait sans les Africains. 1945, malgré le prix payé pour délivrer l'Europe, cela s'est fait sans les Africains. Mm-hmm. Les années 2000 se feront forcément avec l'Afrique. Donc, quoi qu'on dise, nous sommes aujourd'hui invités, mais nous y allons avec nos propres attentes, nos propres besoins. Et cela fait plaisir quand on se déplace aujourd'hui. On voit de plus en plus dans les délégations africaines des hommes d'affaires, mmh. des chefs d'entreprise sur le continent et qui discutent affaires avec leurs partenaires. Donc aujourd'hui, la question n'est plus uniquement les matières premières. Il y a une transition indispensable. Pendant quelques années encore, ce sera le combat des matières premières. Mais si vous tenez compte de l'évolution énorme avec la mise en place en Afrique de ce marché commun africain, de l'ECAF, on se rendra compte que cela va aider à industrialiser le continent. Et donc demain, on va exporter autre chose que les matières premières. On exportera la matière grise, bien sûr, et on exportera le fruit de la transformation du continent. C'est fondamental. Je vous assure que les évolutions que nous vivons aujourd'hui sont irréversibles. L'Afrique va compter demain, à condition, encore une fois, qu'elle s'en donne tous les moyens sur le continent pour que, effectivement, elle n'ait pas que les matières premières à offrir, mais qu'il y ait aussi le flux de la transformation locale.
Aujourd'hui, est-ce qu'on assiste au moins à un frémissement de la création des industries chez Tidiane Gadio sur notre continent? Est-ce qu'on voit quelque chose bouger un peu dans la transformation?
Je pense que c'est effectivement une grande partie du débat qui est en cours. Tous les pays africains ont pris conscience du fait qu'on ne peut pas continuer. Le président Museveni donnait un chiffre extraordinaire
de l'Ouganda
à l'époque dans les sommets de l'Union africaine. À l'époque 2003-2004, je crois, il disait que le marché du café venant de son pays et du Kenya et de l'Éthiopie ou de la Tanzanie, je crois, disait que ça faisait 8 milliards de dollars et qu'eux, ils n'ont récolté que 2 ou 3 milliards. Mm-hmm. Alors, ceux qui ne cultivaient pas, qui ne faisaient absolument rien, venaient juste prendre le produit brique, aller le travailler et le revendre ce produit. Et je crois qu'il y a une sorte de prise de conscience globale dans le continent qu'il faut changer la donne. Et non, les amis asiatiques ont aussi parfois cette préoccupation d'aider au transfert de connaissances, de transfert de technologies, ce que les amis occidentaux n'ont pas fait. Et je dois dire que dans les...
Est-ce que c'est en train de se faire chez Tidiane Gadio aujourd'hui, ce transfert des technologies? Est-ce qu'on y assiste et où? Dans quel domaine?
Vous avez vu, par exemple, la PICAP qui vient de se terminer a beaucoup insisté sur justement l'assistance dans ce domaine.
Le TICA à Yokohama au Japon, oui.
Mm-hmm. Et en plus, voyez les technologies asiatiques qui viennent chez nous à un prix plus que raisonnable comparé à un iPhone qui coûte 1 400 $. Vous pouvez avec 200 $ peut-être acheter une machine Huawei ou Samsung, etc. Ce qui fait aussi que les Africains accèdent à la technologie, s'intéressent à la technologie et nos jeunes qui lancent toutes ces startups, ces compagnies, dans le domaine des nouvelles technologies. Mais je pense que c'est encore un niveau rudimentaire.
C'est
pas un niveau extrêmement élevé et compétitif. Mais les Africains ont aujourd'hui les compétences, ont les moyens. Et je dois dire à l'intérieur très rapidement que le déclin de l'Occident, qui est visible et qui crée cette guerre commerciale entre l'Amérique et la Chine, et le fait qu'il y a un énervement qui est perceptible du côté des partenaires occidentaux qui ont compris la crise de l'Union européenne, tout ce qui se passe actuellement, et le fait, comme disait notre compatriote africaine, Ulimate Gueye, que l'Occident se rend compte qu'il a perdu pour le futur. Le futur maintenant appartient à tout le monde. Les Chinois veulent leur part du futur, mais les Africains aussi, encore une fois, doivent prétendre à leur part du futur.
Mais est-ce que cette rancœur, cette colère qui peut ou pas être justifiée avec l'Europe, qui n'a pas fait ce qu'on attendait, si l'on écoute tous les analystes, ne risque pas de pousser les Africains dans les bras des autres, tout simplement parce qu'ils ne veulent plus traiter avec l'Europe, parce qu'il y a de la rancœur? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, M. Kabiné Camara?
Moi, je crois que nous avons atteint aujourd'hui un niveau où ce risque existait il y a peut-être 10 ans, mais ne l'est plus. Je vous donne quelques exemples. Le Japon, dont on vient de parler, qu'il a organisé la 7e FICAD, il a été le tout premier pays, dans les années 1992-93, à organiser cette première réunion au moment où personne n'était intéressé à l'Afrique. Et il le programmait tous les 5 ans. Quand la Chine s'est réveillée, le Japon s'est dit qu'il faut le faire tous les 3 ans parce que la Chine va me damer le pion. Et quand la Chine a annoncé l'année dernière 60 milliards de dollars que le Japon a dit, automatiquement, le Japon a dit qu'il faut réajuster en fonction des désirats de l'Union africaine et des pays africains. Et le thème de cette année, ça c'est le révélateur, le thème de l'Africa de dit ceci, faire l'investissement, améliorer l'Afrique à travers la technologie, les infrastructures et les hommes. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il faut un transfert technologique. Ils ont même décidé de construire des centres de formation en Afrique de façon à intégrer ces besoins. Je prends le cas de la Chine elle-même. Les gens ne savent pas les chiffres. La Chine, à la fin de l'année dernière, a formé en Afrique 200 000 personnes techniciens supérieurs.
Dans quel domaine?
Ils ne le savent pas. Dans tous les domaines, à travers 20 centres en Afrique. 200 000. Alors, c'est des chiffres qui sont pas connus. Le combat entre l'Occident et ses nouveaux partenaires de l'Afrique est tel qu'il y a beaucoup de mauvaises informations. C'est à nous de pouvoir les analyser, bien les tirer pour que nous puissions nous orienter sereinement. Et je voudrais terminer en disant ceci, que même entre eux, il y a un certain nombre de paramètres lesquels nous devons faire très attention. Chacun veut essayer de signer des partenaires avec nous, mais ils signent des partenaires entre eux. Et nous, nous ne savons pas souvent qu'est-ce qu'ils signent entre eux. Je vous donne un exemple extrêmement révélateur. L'Indonésie est en train de signer des accords bilatéraux, par exemple, avec le Mozambique et autres. Et dans cet accord, il prévoit de faire en sorte que les tarifs douaniers baissent sur les exportations de l'Indonésie vers le Mozambique et du Mozambique vers l'Indonésie. Pendant ce temps, l'Indonésie signe avec l'Union européenne des accords pour vendre le cacao transformé là-bas. De façon à prendre une partie du gâteau qui revient à la Côte d'Ivoire et au Bénin. Si nous ne suivons pas ça, nous risquons de nous jeter dans les bras de l'Indonésie en pensant qu'on peut signer des accords préférentiels avec la vente du café, du cacao, alors qu'ils veulent le transformer sur l'Europe. Ils ont des capacités excédentaires en transformation. Ils veulent acheter le matériel premier, le transformer et le vendre en Europe. Donc, c'est des détails dont nous devons être très conscients, mais je crois que l'information et l'intérêt économique.
On va justement parler de ça dans la seconde partie, mais pour terminer cette première partie, j'avais envie de revenir vers M. Billy Binzier en posant simplement la question de savoir quelle est la différence entre cette coopération nouvelle et celle qui existait avec l'Europe.
Mais vous savez, le problème, c'est que l'Europe venait en Afrique, mais comme un territoire conquis, parce que l'Europe a colonisé l'Afrique. Et donc c'était une coopération forcément déséquilibrée, désaxée. Vous avez aujourd'hui la Chine qui pèse 1,5 milliard d'habitants, 5 fois plus que les États-Unis. Le Japon, c'est 150 millions d'habitants, 2 fois plus que la France. Mais regardez le PIB de la Chine et du Japon. Donc, quand on discute aujourd'hui, nous discutons d'abord en tant que partenaire. Ce n'était pas le cas avec l'Europe. Il faut bien le reconnaître. Et lorsque l'Europe arrive, discuter dans le cadre de l'Union européenne, c'est avec 1000 conditionnalités qu'aujourd'hui les Africains rejettent. C'est une réalité. Lorsqu'on arrive au Japon et qu'on trouve des jeunes Africains intégrés qui parlent japonais, qui sont intégrés dans les entreprises japonaises, dans une nouvelle technologie, c'est une avancée significative. C'est pour cela que chacun doit bien comprendre les enjeux aujourd'hui. Le continent africain se transforme, mais nous ne souhaitons plus être la terre des matières premières. Nous voulons de vrais partenariats, encore une fois, avec des entreprises africaines qui font commerce avec la Chine, le Japon, l'Inde et les autres.
Mais est-ce que l'Union européenne n'adapte pas aussi sa manière de fonctionner avec les pays africains devant cette nouvelle réalité?
Nous sommes dans le dernier cycle de discussion pour la révision des accords de Cotonou. Mais lorsqu'on regarde les accords de Cotonou dans le détail, c'était totalement déséquilibré. Vous parlez de tarifs douaniers qui doivent exister, mais on a même d'autres types de barrières. Le poids de l'ananas, sa taille, son volume pour entrer dans le marché européen. Mais tout ceci aujourd'hui ne peut plus fonctionner, c'est évident.
On va en parler dans la seconde partie et puis on va parler du fait qu'il faut que l'Afrique se prenne en main. Comment réagit l'Afrique face à cette offensive, face à cet intérêt des grandes puissances? On en parle dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On sera avec les mêmes invités, Emmanuel Pontier, qui vient nous présenter la dernière version d'Afrique Magazine, qui s'appelle UAM et Afrique Magazine. À très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Elles sont toutes là ou presque, hormis les États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui ne lui accordent qu'un intérêt lointain. C'est toutes les grandes puissances mondiales qui désormais se bousculent en Afrique. Au-delà des sommets qu'elles organisent pour séduire la mariée, chaque prétendant dégaine son portefeuille. Des routes, des stades, des palais de sport par-ci, des résidences présidentielles, des hôpitaux, des armes par-là. Tout y passe. Mais que viennent-elles chercher en réalité sur ce continent que l'on disait perdu? Et comment l'Afrique réagit-elle face à cette impressionnante offensive des grands de ce monde d'un coup hébridelle? Bonjour et bienvenue dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'Afrique face à l'intérêt des grandes puissances. Avec plusieurs invités au téléphone et sur ce plateau, plusieurs acteurs de cette scène internationale. D'abord, Monsieur Alain-Claude Bilibizier, le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Second invité de ce plateau, Monsieur Kabiné Komara, ancien premier ministre de Guinée, auteur de nombreux ouvrages. Il est en direct de Conakry. Notre troisième invité est lui en direct de Dakar. Cheikh Tidiane Gadio est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Notre dernier invité, et pas des moindres, assise dans ce studio 41 de RFI ici les Moulineaux, est une consoeur, Emmanuelle Pontier, la directrice adjointe de la rédaction d'Afrique Magazine. Alors, dans la première partie de ce magazine, nous avons évoqué un peu, on a un peu planté le décor, montré ce qui se passe aujourd'hui, et on a envie de dire, le risque n'est-il pas que l'Afrique se dise « je suis la belle courtisée de tous » mais ne prenne pas les dispositions nécessaires pour tirer profit de cela? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, Emmanuel Pontier?
Il est clair que ce nouveau contexte prouve que, c'est clair, la balle est dans le camp africain. C'est-à-dire qu'il est évident que les pouvoirs publics africains, que les interlocuteurs africains de toutes ces nouvelles, ces nouveaux pays, ces nouvelles puissances émergentes, etc., doivent être fermes, doivent comprendre ce qu'on leur propose, doivent être tout à fait armés pour défendre les intérêts de leur propre pays avant les intérêts des puissances en question. Alors ça, c'est évident que c'était le cas avant, mais, ça a toujours été le cas.
Oui, mais il y avait un grand complexe quand même de la part des cadres qui souvent étaient choisis parce qu'ils étaient plus malléables.
Bien sûr, mais le problème reste, enfin disons que ça s'est un peu déplacé, mais la question reste la même. Il faut que l'Afrique dise à ses entreprises de façon très concrète, vous nous apportez ça, c'est formidable, mais nous on veut ça, ça, on veut un minimum d'employés locaux, on veut un transfert de technologie obligatoire, prouvé, ratifié, on veut que vous nous aidiez à faire ceci parce que nous, ça nous intéresse, même si vous, ça vous intéresse pas. Il faut que ça soit, comme on dit, bon, très vulgairement, un partenariat gagnant-gagnant, ce qui est pas forcément plus facile avec les nouveaux interlocuteurs qu'avec les anciens.
C'est pas forcément plus facile.
C'est pas, alors que ça soit différent, certainement, que ça soit, comme vous le dites très justement, décomplexé, que ça soit axé, en tout cas, sur un nouveau deal, une nouvelle époque, avec des nouvelles données, c'est très intéressant. Mais il ne faut pas que l'Afrique oublie que même si la Chine, par exemple, est certainement beaucoup plus rapide, beaucoup plus prodigue, etc., en marché, en route, en tout ce qu'on veut, il y a aussi des contrats léonins avec, entre la Chine et l'Afrique. Il y a aussi des matériaux, on le sait très bien, qui ne sont pas très pérennes, etc. Je ne dis pas du
d'ailleurs,
tout que l'Europe
est meilleure. D'ailleurs, le Japon, lors du TICA, faisait remarquer cela.
Revendique cela en disant qu'eux, a priori, se positionnent comme étant meilleurs, etc.
De meilleure qualité.
Voilà, c'est vraiment aux Africains de pas rater le coche, je pense.
Alors là, on voit les pays partir les uns tout seuls, sans jamais attendre, sans jamais avoir une stratégie globale. Est-ce que c'est pas ça le plus gros danger, Monsieur Kabiné Komara? Cette Afrique qui, où chacun va un peu seul, va passer des accords tout seul, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une stratégie globale du continent?
Je voudrais vraiment relativiser cette conception. Je prends le cas du Japon. Le Japon est le seul pays qui a organisé une réunion en concertation avec l'Union africaine, la Banque mondiale et le PNUD. Ce qui fait qu'il y a des réunions préparatoires qui font en sorte que les projets dorment en relation avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et les agendas des objectifs du développement durable. En fonction de ceci, les projets sont définis. Il reste maintenant à savoir comment appliquer les projets. Je dois dire qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'avancées. Ce qu'il faut éviter par contre, c'est que très souvent, quand les contrats sont signés, que les coûts soient réellement des coûts réels, pour qu'il n'y ait pas de gras qui parfois nourrit malheureusement la production dans le pays. Et deuxièmement, que l'exécution soit trouvée par des cabinets absolument compétents. Je prends l'exemple en Guinée, le barrage de Kalita qui a été réalisé, il a été recruté un cabinet européen pour suivre l'exécution du barrage, ce qui fait que les normes techniques et environnementale européenne ont été appliquées. La Côte d'Ivoire l'a appliquée pour les barres de soubré, beaucoup de pays l'appliquent. Donc, non seulement on mobilise les fonds, hein, c'est des partenaires qui nous donnent des problèmes à des conditions constitutionnelles, mais également on surveille les pétitions. Et deuxième élément, c'est que beaucoup de pays ont mis sur pied un bureau spécifique pour le suivi de l'application des investissements. Et ça va progressivement améliorer la qualité du rendu. De façon à ce qu'on fasse en sorte que les dettes qui sont empruntées, qui sont contractées, puissent être remboursées à partir de la génération de revenus procurés par les résultats de ces investissements.
Alors, ma question reste la même. C'est, est-ce qu'il ne faut pas une stratégie globale au départ de l'ensemble de ces États? On parlait de l'Union africaine à l'instant. Mais est-ce que, chez Tidiane Gadio, il n'y a pas besoin que l'Afrique se retrouve pour dire « Voici ce que nous avons envie de faire avant d'affronter ces grandes puissances qui arrivent avec beaucoup de moyens ?»
Alain, je vais expliquer quand même une expérience personnelle. Quand le Sénégal a renoué les relations diplomatiques avec la Chine, on a été invité donc à ce sommet Chine-Afrique. Et très franchement, pendant la réunion ministérielle, j'ai senti un immense malaise de voir, à l'époque on était, je crois, 48 ou 48 ministres des Affaires étrangères autour du seul ministre chinois des Affaires étrangères. Et je disais que j'ai dit aux ministres chinois et en public que franchement, ce format pourrait être révisé et amélioré en utilisant bien sûr un langage diplomatique. Et je lui ai dit que pourquoi la Chine ne pourrait pas rencontrer une délégation africaine où les Africains feraient des réunions préparatoires au niveau des communautés régionales et mandater deux ministres des Affaires étrangères par communauté régionale. On aurait une délégation de 10 ministres africains. C'est-à-dire les Africains feraient eux-mêmes une sorte de cuisine interne du point de vue de leur partenariat avec la Chine. Parce que franchement, voir quand même un pays d'Afrique qui a 5 millions d'habitants ou 10 millions d'habitants ou 15 millions, vouloir être partenaire à part égale avec la Chine, ça fait sourire. Mmh. Et pourquoi l'Afrique, près d'un milliard d'habitants, ne pourrait pas envoyer une délégation, deux ministres par sous-région, par communauté régionale, et on aurait un agenda régional, l'agenda de l'intégration des communautés régionales, qu'on présenterait à un pays partenaire comme la Chine, comme le Japon et autres, ce qui n'empêche pas les relations bilatérales. La Chine, aujourd'hui, est le pays le plus avancé dans la représentation bilatérale en Afrique, avec 52 missions diplomatiques en Afrique, plus que les États-Unis avec 49 missions diplomatiques. La Chine comprend que l'Afrique est une puissance diplomatique aux Nations Unies, avec 54 États, 54 votes, et la Chine investit aussi dans cela. Donc, si nous sommes cette puissance diplomatique, qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser pour qu'une délégation africaine puisse aller poser à nos partenaires des préoccupations régionales? On veut une autoroute, par exemple, en Afrique de l'Ouest, qui traverse l'essentiel de nos pays. On veut des grands projets structurants au plan régional de l'intégration. On les discute avec la Chine dans les grands sommets, mais au plan bilatéral, chaque pays a le droit, bien entendu, souverainement, d'avoir une relation de partenariat avec la Chine. Je trouve que ça va être beaucoup plus efficace et on aura beaucoup plus de poids. Quand vous représentez 15 pays de la CEDEAO, votre parole est beaucoup plus
importante. Elle est beaucoup plus importante, c'est vrai.
Voilà.
Alain Claude Bilibinze, que dites-vous à ça, vous qui êtes aux affaires aujourd'hui, qui venez du TICAD? Est-ce que ça ne serait pas bien, justement, d'être représenté, de représenter l'Afrique, au lieu que tout le monde soit là?
Ben vous savez, il y a eu de grosses évolutions. Dans les années 2000 jusqu'en 2010, les sommets de l'Union africaine, on ne parlait que politique, on parlait de conflits entre États, on parlait d'autres types d'enjeux. Aujourd'hui, on parle plus économie. Et l'Union africaine a réalisé des réformes importantes en se dotant d'un agenda 2063. Les communautés économiques régionales ont leur propre agenda également, aligné sur l'agenda de l'Union africaine. Et donc, le débat aujourd'hui a changé de forme. Et dans la plupart des réunions, vous avez toujours des réunions préparatoires, ça a été rappelé, avec les commissions de l'Union africaine en charge des dossiers spécifiques. Et donc, en réalité, aujourd'hui, le modèle a changé, le modèle a évolué. Il est vrai que le Gabon, avec ses 2 millions d'habitants, ne peut pas discuter d'égal à égal avec la Chine. Mais par contre, l'Afrique, dans le cadre du marché commun africain, avec le secrétariat qui sera installé à Accra, pourra discuter avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Union européenne, pourquoi pas. Parce que c'est ça le véritable enjeu. Nous ne pouvons pas rater le coach de ce qui est devant nous. Et cela veut dire que les réformes structurelles peuvent être menées au sein de nos États, au sein des communautés économiques régionales et au niveau de l'Union africaine qui doit porter notre voix à nous tous. C'est fondamental. Les évolutions sont perceptibles. On les sent en 5 ans, l'Afrique a beaucoup évolué dans la manière d'aborder le partenariat avec les autres régions du monde.
Aujourd'hui, quand on parle de partenariat, on parle aussi de la Russie. La Russie est entrée sur le marché. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que la Russie vient chercher, vous qui avez discuté avec l'ensemble de ces pays-là?
Si vous voulez, il semble que finalement, le monde n'est plus si unilatéral que cela. Les guerres économiques qui se mènent ici et là ont leurs répercussions, y compris au niveau de l'agenda diplomatique international. Et donc, il y a de nouveaux enjeux en Afrique, et quelqu'un l'a rappelé parmi ceux qui ont pris la parole avant moi, l'Afrique aujourd'hui doit pouvoir regarder de quel côté tirer son épingle du jeu. La Russie, c'est une puissance. La Russie tente au Conseil de sécurité. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Afrique, notamment l'exemple de la Libye, on se rend très bien compte qu'il aurait fallu qu'il y ait d'autres voies au Conseil de sécurité pour éviter ce problème qu'on a aujourd'hui en Afrique. La crise migratoire a ses origines. Et donc, que la Chine puisse bien en Afrique, c'est aussi pour préserver ses propres intérêts, notamment au Conseil de sécurité.
Alors, on sait que beaucoup de gens disent, voilà, avec cette nouvelle offensive, les produits vont arriver de partout, l'Afrique va être encore la poubelle du monde, chacun vient vendre ce qu'il veut sur le continent. Est-ce qu'on est prémunis de cela, Emmanuel Pontier, d'après vous ?
Prémunis, moi je pense pas, je veux pas être pessimiste, mais je pense que les pays africains sont pas du tout prémunis. Mais je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout dépend des deals, tout dépend justement des réunions bilatérales, alors que ce soit après dans certains domaines, effectivement pour tous les projets transnationaux, que les pays africains se mettent ensemble pour parler avec la Chine par exemple. Mais je veux dire après, quand la Chine vient construire une route, ou quand elle vient construire peu importe,
un stade,
un palais des sports ou un stade, je veux dire, il faut que à côté on sache que qu'est-ce qu'on veut. Et quand elle vient inonder de nouveaux produits, etc., il faut qu'on mette des barrières.
Oui,
il faut
parce
qu'on dise ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas. Ou voilà, enfin, c'est il faut absolument que les pays africains ne pensent pas que c'est une aubaine, que c'est un honneur ou que c'est une aubaine que ces pays s'intéressent à eux. Ce n'est pas que ça.
Non,
il faut pas oublier que
ça n'a rien de sentimental. C'est du business.
C'est du business et du business qui intéresse celui qui vient.
Alors, chez Kylian Gadio, dans les négociations, est-ce qu'on met l'accent justement là-dessus, sur le fait que l'Afrique ne peut pas continuer d'être la poubelle du monde, où on ramène tous les produits qu'on ne peut pas vendre ailleurs et qu'on ne contrôle pas? Est-ce qu'aujourd'hui on a le poids pour le dire clairement et prendre des mesures pour empêcher que ces produits non contrôlés arrivent sur le marché?
Absolument, tout à fait d'accord. J'ai connu des exemples de pays d'Afrique qui avaient une coopération avec la Chine ou avec des entreprises chinoises, nationales chinoises importantes, où la pollution disons dans l'extraction du pétrole a mené ces pays à imposer de lourdes sanctions aux entreprises chinoises. Je pense que c'est un débat qui est très très important que les Africains devraient mener, peut-être qu'au niveau de l'Union africaine, au niveau des communautés régionales, parce qu'encore une fois, la relation bilatérale Chine, chaque pays d'Afrique pris séparément est une relation tellement déséquilibrée. Il est bon de se parler en partenaire en arrivant à se regarder dans les yeux. Si nous sommes quasiment sur le même pied d'égalité. Mais quand celui qui vous reçoit vous perçoit, comme disait le doyen Effie Amara, la main qui donne est toujours
au-dessus de celle qui reçoit.
Et je pense que la Chine, et comme aussi d'ailleurs parlant de la Russie, je me rappelle un G8 où la Russie, très franchement, avait eu le coupé d'exclure l'Afrique, de ne pas inviter les dirigeants africains, comme tous les leader du G8 l'avait fait auparavant. J'ai eu un entretien téléphonique que j'aurais dû enregistrer d'ailleurs avec le ministre Lavrov, qui était un très grand ami d'ailleurs à l'époque. Je lui ai dit toute la déception de l'Afrique, que la Russie ait décidé de penser que l'Afrique n'était pas aussi stratégiquement importante et de ne pas inviter l'Afrique.
Mais elle est là aujourd'hui.
Maintenant, non seulement la Russie est là, mais sous l'angle, j'avoue, je pense que c'est l'angle sécuritaire qui l'emporte, avec l'expérience en cours en Centrafrique, l'expérience en cours en Syrie, où les pays d'Afrique, justement, affaiblis par le fait que nous n'avons pas de pays qui nous représentent au Conseil de sécurité avec droit de veto. Cette bataille-là aussi, un jour, j'espère, Alain, qu'on en parlera, ça va handicaper l'Afrique pendant longtemps, parce que là où les choses sérieuses se défient avec droit de veto, l'Afrique est exclue, ce qui est tout à fait inadmissible.
On en a déjà parlé dans un magazine, on reviendra sur la question.
Absolument.
Alors, comme le temps tourne vite, j'ai envie qu'on évoque d'autres aspects, qui est le cas du Brésil, qui était très présent jusqu'à un certain temps. Et là, on a le sentiment que les autres l'ont supplanté, que le Brésil n'est plus présent. Est-ce un choix du Brésil ou est-ce parce que le Brésil n'intéresse pas l'Afrique? Cabinet Comara?
Effectivement, à l'époque où on avait mis en place les BRICS, donc Chine, Russie, Afrique du Sud et Brésil, soulevé beaucoup d'espoir, et moi-même j'ai effectué des voyages au Brésil. Je dois dire que c'est Lula qui était vraiment le fer de lance vraiment de l'attitude du Brésil vers l'Afrique. Et malheureusement, les problèmes que Lula a connus ont éclipsé quelque peu l'ardeur du Brésil à commercer avec l'Afrique.
Sinon, le Brésil a d'énormes potentiels sur le plan agricole à partager avec l'Afrique. Et également, un grand appétit à investir dans les grands milieux. J'ose espérer qu'après cette bilance-là, le Brésil va davantage vraiment tendre la main vers l'Afrique et que l'Afrique tendra vers la main vers l'Afrique, vers le Brésil. En particulier, il y a, le Brésil a un grand centre de recherche agronomique qui s'appelle l'AMBRAPA, qui aujourd'hui élabore des produits qui sont absolument adaptés à nos réalités écologiques. Et je crois que c'est une opportunité dont les Africains doivent se saisir.
Alors, dans quel domaine faut-il se préparer face à cette offensive? Quel est le domaine où les Africains doivent dire « voilà ce qu'on doit tirer de cette offensive » d'après vous, Emmanuel Pontier?
Moi, je pense que t'es dans beaucoup de domaines. Je veux dire, dans les nouvelles technologies, dans le BTP, dans le commerce, dans beaucoup de domaines. Mmh. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment que l'Afrique comprenne que c'est une opportunité, en fait, pour elle. Mmh. C'est-à-dire que d'avoir autant de puissances étrangères qui s'intéressent aujourd'hui à l'Afrique, il faut qu'elle impose ses conditions. C'est à elle d'imposer ses conditions, c'est-à-dire de dire, au lieu, si vous voulez, qu'un chef d'État africain soit invité en Turquie ou en Italie, etc., et qu'il revienne avec 200 contrats signés, on ne sait pas trop si c'est des contrats dont son pays avait besoin, il faut faire l'inverse, moi, je pense. C'est-à-dire de dire, voilà, on a besoin d'un pont, on a besoin d'une route, on a besoin d'un centre de nouvelles technologies ou de la fibre optique. Faites presque des appels d'offres. Vous, les Italiens, vous nous dites quoi? Les Chinois, vous nous dites quoi? Eh ben, on va réfléchir, on va prendre celui qui nous arrange le plus. Il faut que l'Afrique pense qu'elle comprenne qu'elle est en position de force. Ouais. Mais elle l'est. Puisque c'est évidemment corrélatif à ce qu'on a dit tout à l'heure.
Si toutes
les
marchés
s'intéressent à l'Afrique, forcément, c'est qu'elle est en position de force. Et ça, il faut absolument qu'elle le comprenne. Et c'est la chance, je veux dire, de s'être affranchie du bilatéral avec la France, entre autres pour les pays francophones, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, qui étaient un peu teintés de relents néocolonialistes, etc., où on disait aux Africains, on va vous vendre ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Aujourd'hui, ça a changé. Les Africains aussi ont changé. La donne a changé. Ils ont énormément de potentialités en face. Je veux dire, un choix, une palette de choix de pays et de partenaires qui posent leurs conditions.
Alain-Claude Bélibinzé, avec les autres ministres des Affaires étrangères où vous vous déplacez régulièrement, avez-vous le sentiment que vous êtes en accord et que vous avez un cap qui est fixé?
Si vous voulez, pour répondre à cette question, je m'ai d'abord indiqué qu'il n'y a pas que la Chine qui serait tentée de transférer des produits de peu de qualité en Afrique. Toutes les régions sont tentées de le faire. On a connu des exemples par le passé qui ont mis en cause des pays européens. Et donc ça veut dire que c'est à nous de fixer les normes qualité également. Qu'est-ce qui va être importé chez nous, selon quelles normes? C'est à nous de les fixer. Et l'Union africaine travaille sur la question de la norme. C'est important à souligner. Ensuite, effectivement, il y a un cap. Les ministres africains de l'Afrique étrangère, du commerce, etc., travaillent, je l'ai rappelé, sur l'agenda 2063 avec un cap qui est très clair. Il n'est plus question aujourd'hui de jouer la concurrence entre territoires pour dire, voilà, venez chez moi parce que je suis le mieux offrant. C'est pour ça que les communautés économiques régionales fixent les normes. Au niveau de la CEAC, au niveau de la CDAO, on essaie de s'accorder sur la question du tel douanier, sur la question de la fiscalité.
Il faut préciser, la CEAC, qui est la communauté économique d'Afrique centrale, et la CDAO, celle d'Afrique de l'Ouest.
Merci, M. Foucault, pour cette précision. Et donc, effectivement, nous avons aujourd'hui une palette de choix. Par contre, les choix doivent être faits en fonction, d'une part, de cette jeunesse que nous avons évoquée au début de l'émission, qui est aujourd'hui en train de demander aux États africains, aux gouvernants africains, de réaliser des choses pour que la jeunesse sur le continent se réalise sur le continent. Donc, cette jeunesse, il faut penser à elle. Ça veut dire la formation professionnelle, ça veut dire les nouvelles technologies, ça veut dire la médecine. C'est fondamental. Après, les infrastructures, chaque pays peut développer ses infrastructures selon les normes internes à chaque pays. Mais ce qui est international, c'est le savoir, c'est la connaissance. Tous les exemples comme Smart Africa à Kigali, tous les rencontres qui se déroulent à Abidjan, les rencontres à Libreville, cette jeunesse qui se rencontre et qui échange, c'est ça l'avenir du continent.
Mais c'est là-dessus qu'on va terminer. Et puis, merci à vous, monsieur et madame, d'avoir accepté de venir débattre de ce sujet-là qui intéresse la plupart des gens. Bon vent à Afrique Magazine,
merci.
À nouveau, qui est à 35 ans de parution ininterrompue.
Absolument.
C'est quand même un record sur notre continent. Bravo en tout cas, et félicitations.
Merci.
Merci à vous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.